studio Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes vendredi 15 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition matinale. Au sommaire, la polémique autour de la répartition des enseignants fait surface deux semaines après la rentrée scolaire. Certaines écoles déplorent l'insuffisance d'enseignants. À Bamako et à l'intérieur du pays, des sinistrés signent leur retour dans leurs anciennes habitations. Plus d'une centaine de ménages ont regagné Bozodaga à Bamako et de nombreux autres à Gao. Cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Mali affronte le Mozambique en déplacement à Maputo cet après-midi à 16h. Une victoire du Mali sera synonyme de qualification. C'était là les grandes lignes de cette édition. Les détails dans un instant avec Juliette Koulibaly. Philly Dambélé est à la technique. Les écoles fondamentales publiques de la rive gauche à la rive droite de Bamako se heurtent à des défis variés qui fragilisent l'enseignement. Par pénurie d'enseignants, certains établissements peinent à offrir une éducation de qualité. Les autorités scolaires, quant à elles, rassurent. Et c'est ce qui ressort dans ce reportage de Moumine Sindebou.
Ni l'école fondamentale publique Monzondiaka à Hamdalay, à la rive gauche, encore moins l'école Mamadou Gundo Simaga à Badlabou, à la rive droite, ne notifie des cas d'effectifs pléthoriques. Les responsables de l'école publique Mamadou Gundo Simaga à Badlabou se plaignent du manque d'enseignants. Madame Maïga Aïchatou Kamara, directrice au niveau primaire de l'école fondamentale publique Mamadou Gundo Simaga, MGSB.
Notre difficulté là maintenant, c'est le manque d'enseignants. Et on a déjà signalé au CAP, les CAP sont tous à l'académie. Le directeur rentre en classe pour occuper toutes les classes.
Un directeur du même établissement explique ce manque d'enseignants par les mutations et l'admission de certains enseignants au concours d'entrée à l'INSU. Abba Askofare, directeur du second cycle Mamadou Gundo Simaga.
Le concours d'entrée à l'INSU qui fait qu'il y a des enseignants qui laissent une place vide. Aussi, on fait les mutations par cap. L'académie ne peut pas changer. Alors que quand on mine 6, il y a effectif pléthorique d'enseignants.
On parle des effectif pléthorique quand le nombre d'élèves par classe dépasse 50, rappelle le chef de section éducation à l'Académie de la rive droite de Bamako. Bien qu'il y ait des cas d'effectif pléthorique dans cette circonscription, Amidou Salif Maïga rassure que la situation est sous contrôle.
On demande généralement de procéder à une double vacation. En termes d'enseignants, il n'y a pas de problème. On peut dire que Bamako est saturé.
À ce problème s'ajoute l'insécurité par manque de surveillance dans de nombreux groupes scolaires. Une inquiétude soulevée par des responsables d'enseignement fondamental.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou le compte X de Studio Tamani. La journée mondiale du diabète a été célébrée ce jeudi 14 novembre au Centre national de lutte contre le diabète sous le thème « Diabète et le bien-être ». Cette journée de sensibilisation a été marquée par des dépistages, des sketchs et des dons à l'endroit des associations qui luttent contre la maladie. Nous en savons plus dans ce reportage d'Issa Oumar Togola.
Avec un taux de prévalence de 5%, le diabète constitue un véritable problème de santé publique et un enjeu majeur pour le développement au Mali, a affirmé Youma Sall, représentante du ministère de la Santé. Selon elle, des acquis notables ont été réalisés dans la lutte contre cette maladie.
L'existence d'un centre de lutte contre le diabète est une unité de prise en charge du diabète à l'hôpital du Mali. La décentralisation de la prise en charge du diabète au niveau de 32 CCRF, la dotation des structures en matériel de prise en charge du diabète et l'existence d'une politique et d'un plan stratégique national.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 422 personnes sont atteintes de diabète dans le monde et plus de 80% des décès liés à cette maladie se produisent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Son représentant national, Dr Christian Itama Maïkoulou, alerte face à l'augmentation des cas et la faible couverture des traitements dans ces pays.
Nous avons constaté une augmentation alarmante du diabète au cours des trois dernières décennies qui reflète l'augmentation de l'obésité par les effets de la commercialisation d'aliments malsains, le manque d'activité physique et les difficultés économiques.
Au cours de cette journée de sensibilisation, les intervenants ont lancé un appel pour une amélioration des moyens de prévention et une subvention de la prise en charge pour réduire le coût du traitement.
Je vous le disais, dans le sommaire, les sinistrés des inondations ont entamé le retour à domicile depuis quelques jours suite à la décrue du fleuve et au retrait des eaux de pluie du reste de leurs habitations. Plus d'une centaine de ménages ont regagné leur domicile à Bozodaga, à Bamako et à Gao. Dans toutes ces deux localités, les sinistrés s'attellent à la réhabilitation de leurs concessions. Notre reporter Fatih Yattara a fait un tour. Voici son compte-rendu.
À Bozodaga, en commune D du district de Bamako, ils sont plus de 100 ménages à avoir regagné leur domicile sur les 150 délogés du fait des inondations. Roux et moules à la main, Draman Konta est en train de fabriquer des briques en banco pour refaire les vestibules de sa maison qui s'est effondrée lors des inondations dernières. Konta dit avoir reçu de l'aide de la part du gouvernement, mais il affirme aussi que les besoins demeurent énormes.
On a besoin d'aide. Certaines familles ne sont pas revenues. Elles sont en ville car elles n'ont pas de moyens pour refaire leur toit.
Tout comme à Bamako, en région aussi, beaucoup de familles ont pu rejoindre leur domicile avec les moyens de bois, malgré l'inconfort. C'est le cas de ces familles à Gao. Quand on a demandé de libérer les écoles, on a quitté car on n'a pas le choix. On a aplanti les décombres restés après l'effondrement de nos maisons et on a construit des cases. Ce n'est pas trop confortable, mais que faire?
Bon, les conditions, c'est un peu difficile. Ici, l'abri que nous avons construit, ce n'est pas un abri durable.
Le retrait des eaux est une bonne nouvelle pour ces populations, mais pas la solution définitive. Ces populations qui vivent dans des anciens cours d'eau ou lits du fleuve doivent chercher des endroits sûrs car avec les changements climatiques, les inondations seront cycliques et fréquentes, déclarent des urbanistes.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
On en vient à présent à notre dossier de la semaine. À l'occasion de la rentrée scolaire, le port de la tenue scolaire est une exigence dans certains établissements scolaires et facultatifs dans d'autres. Le port de la tenue permet de mettre tous les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, indiquent les responsables scolaires. Pourtant, au Mali, la mesure n'est pas effective partout et les raisons sont multiples. Que pensent donc les élèves du port de la tenue scolaire? Qu'en est-il des parents d'élèves, des éléments de réponse? Dans ce dossier, une réalisation d'Amadou Sadio Camara.
Dans cette école publique de Bamako, le port de la tenue scolaire a été restauré par les responsables pour lutter contre les inégalités et les différences sociales. Senghipiri Aljuma est le directeur du second cycle.
La tenue est obligatoire. Nous avons fait de telle sorte que les enfants des pauvres aussi soient à l'aise en classe avec les enfants des riches.
Cette norme vestimentaire est aussi restaurée dans de nombreuses écoles privées. Mohamed Ba, directeur d'un de ces établissements, affirme avoir rendu obligatoire le port de la tenue scolaire. C'est là pour plusieurs raisons. Et l'enseignant précise que ce qui ne se plie pas à cette règle sont passibles à des sanctions.
On a constaté, il y a un moment, il y avait des élèves qui portaient des tenues insupportables. Donc on était obligé d'insourer les tenues. Si tu ne respectes pas, je te mets à la porte.
Au regard de ces affirmations, que pensent donc les premiers concernés du port de la tenue scolaire? Il s'agit bien évidemment des élèves. Écoutons ces avis.
Bon, vu que
le port de la tenue est de mettre les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, donc moi, je le portais sans problème. Je n'aimais pas porter notre uniforme scolaire parce que le t-shirt était en soie, donc ça me gênait.
Moi, j'ai porté la tenue parce qu'elle me permettait d'éviter de toujours salir mes autres habits.
Du côté des parents d'élèves, on avance de nombreux avantages dans le port des uniformes scolaires.
Le port de la tenue nous facilite la tâche, notamment l'achat des habits.
Si les élèves portent la tenue, ils sont mieux identifiés comme des écoliers et les gens leur cèdent souvent la route.
Et pourtant, le port de la tenue scolaire est devenu facultatif après certaines plaintes exprimées par certains acteurs de l'école. C'est ce qu'indique Anita Koulibaly, chef section à la formation au sein de l'Académie d'enseignement de la région de Ségou.
Avant, on voyait le caractère obligatoire du port de la tenue. Mais de nos jours, avec les nombreux problèmes, la latitude est laissée à chaque établissement de s'organiser avec ses partenaires pour le port de la tenue scolaire.
Il faut noter que le port de la tenue scolaire ne profite pas qu'aux acteurs scolaires, car certains tailleurs rencontrés affirment également en tirer profit en termes de couture, même s'ils indiquent enregistrer peu de commandes cette année comparé à l'année précédente.
Un mot de sport, dans cette édition, les Aigles du Mali vont-ils décrocher leur ticket pour la CAN Maroc 2025 dès cet après-midi à Maputo? L'équipe malienne affronte son homologue du Mozambique à 16h pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires. Les joueurs maliens sont au complet dans la capitale mozambicaine. Après les forfaits des attaquants Moussa Djenepo, Lassine Sinayoko et le défenseur Moussa Diarra, Amadou Danté et Ibrahim Cissé ont été appelés en renfort. Toujours au compte de la cinquième journée, hier soir, le Sénégal a battu le Burkina 1-0 au stade du 26 mars de Bamako. Il prend ainsi la première place du groupe. Mais les deux équipes étaient déjà qualifiées depuis la quatrième journée. C'est ce qui referme cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Philippe Dambélé assurait la technique. Auditeurs et auditrices, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Au Mali, de plus en plus, des enfants possèdent des téléphones dès un certain âge. De nombreux cas, ces téléphones sont achetés par les parents pour rester en contact régulier avec l'enfant. Pourtant, ces appareils sont très souvent utilisés à d'autres fins par les enfants. Regarder des vidéos ou des images dont certaines sont obscènes sur Internet ou les réseaux sociaux, discuter avec des amis pendant des heures, entre autres, des usages qui peuvent négativement impacter l'enfant sur plusieurs plans, préviennent des psychologues et pédagogues. Dans ce magazine, Tous les enfants du Mali, ils invitent les parents à restreindre l'utilisation du téléphone par les enfants. C'est une réalisation de Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Dans les rues de Bamako et Kaya, nous avons croisé de nombreux enfants en possession de téléphones portables Android. À la question de savoir ce qu'ils font avec, écoutons leur réponse.
J'ai un téléphone avec lequel je prends des photos et regarde des vidéos sur TikTok et WhatsApp. J'ai fait aussi des recherches avec.
J'ai eu un téléphone à 15 ans, je regarde seulement des vidéos avec et je surfe souvent sur WhatsApp.
Avec mon téléphone, je fais des recherches sur Google et je visionne des vidéos sur WhatsApp.
Comme ces enfants, ils sont légion des mineurs qui détiennent des téléphones, des appareils offerts à eux pour la plupart par les parents. À Bamako, Ségou, Gao et Yoroso, certains parents expliquent pourquoi ils achètent des téléphones pour leurs enfants et comment ils font le contrôle.
On n'est pas souvent tellement à la maison. Souvent, il y a le besoin d'échanger avec les enfants, avoir leurs nouvelles. À partir de 20h, je récupère les téléphones jusqu'au matin.
Je fais ça pour qu'ils puissent vraiment faire des recherches avec ça.
Oui, le téléphone peut aider l'enfant dans ses études, reconnaît Dr. Moussa Cissé, pédagogue. Il prévient toutefois que l'usage abusif du téléphone par l'enfant peut produire l'effet contraire.
La pédagogie évolue avec les mutations sociales. L'éducation aussi doit s'adapter à ces changements technologiques. L'enseignant dans sa classe doit passer forcément par des illustrations, par des images. Le téléphone répond à ce contexte-là. Ce qui serait grave, à mon avis, quand le téléphone est détourné du contexte pédagogique, il devient comme un instrument de réjouissance, un instrument permettant à l'enfant d'accéder à des images prohibées.
Le psychologue Drissa Traoré abonde dans le même sens. Il conseille aux parents de veiller à ce que les enfants aient une utilisation modérée du téléphone au risque d'exposer l'enfant à certains problèmes.
L'usage excessif du téléphone peut limiter l'attention des enfants. Cela peut rendre difficile pour eux de se concentrer longuement sur des tâches académiques. La lumière bleue émise par les écrans peut perturber les cycles du sommeil. Les enfants en particulier, s'ils utilisent leur téléphone avant de dormir, le manque du sommeil, la régulation émotionnelle.
Ce n'est pas à tout âge qu'on doit donner un téléphone à un enfant. Mais si le besoin s'y fait sentir, cet acte doit être accompagné de suivi et de sensibilisation des parents sur la bonne pratique de l'usage numérique, nous dit Issiaka Diarra, informaticien.
On a pratiquement 3 tranches d'âge pour ceux qui veulent vraiment donner le téléphone pour des besoins de communication et de sécurité à leur enfant qui a moins de 12 ans. Ils donnent des téléphones basiques qui n'ont pas accès à Internet, donc juste pour pouvoir communiquer avec eux, savoir savoir où l'enfant se trouve. Et de 12 à 14, on peut l'offrir son premier smartphone avec des restrictions aussi d'accès sur Internet. À partir de 15 ans, on peut enlever un peu de restrictions sur Internet, mais avoir quand même une discussion régulière avec l'enfant.
Au-delà, les parents ont également la possibilité de restreindre l'usage numérique, explique Issaka Diarra, informaticien.
Ces iPhones et ces Android ont des systèmes contrôle parentaux. On peut limiter le temps d'utilisation même de certaines applications, restreindre l'utilisation du téléphone, filtrer les contenus inappropriés, bloquer même certains sites. Google Family Link, qui permet aussi de superviser le temps d'écran, ou d'autres applications qu'on peut installer sur le téléphone de l'enfant, telles que Norton Family et telles que Break, géolocaliser le téléphone de l'enfant. Il y a d'autres même qui peuvent nous faire des rapports d'utilisation.
Pour des parents qui souhaitent acheter à tout prix des téléphones pour les enfants, les pédagogues conseillent de mettre en place des stratégies pour que les téléphones restent dans le cadre éducatif.